Et oui, merci de nous écouter, merci de participer à l'émission. Au 717-991-9, on vous lit. C'est grâce à vous si on a pu célébrer là, un petit peu plus clair, un petit peu plus tard. Nous, ça nous fait toujours plaisir de célébrer, d'être heureux de la luminosité. Et dans les dernières minutes aussi, la plupart des membres en studio des retours écoutaient Chapel Roan, Good Luck Babe. On était comme ah, ouhou, ah, ouhou. Puis il y avait Nathan. Nathan, lui, il l'écoutait pas. Nathan, lui, était focus. Comme Peter Stachnik, les Nordiques, quand arrivait la troisième période.
Mon Dieu, quelle référence.
Il était d'une concentration incroyable. Honnêtement, c'est pas si grave
personne...
que ça, Nathan.
Non, il n'y a pas d'autre personne que Peter Stachny depuis ce temps-là qui a eu une concentration incroyable.
Ben oui, ben, il y a Anton Stachny puis Marianne Stachny.
J'ai été très concentré dans la dernière minute, moi.
Il voulait vraiment... puis c'est pas grave, Nathan, là, si tu le rates au pire, mais... tu as écouté le documentaire de Avicii.
Oui.
Et tu le conseilles à tous.
À tout le monde. I'm Tim, que ça s'appelle, documentaire qui est disponible sur Netflix depuis peu. Puis c'est que ça m'a complètement bouleversé. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Avicii, bon, DJ prolifique du monde de l'EDM, qui a connu un succès fulgurant. C'est arrivé tellement, tellement rapidement, mais qui nous a quittés malheureusement en 2018 déjà. C'est en 2018 que Avicii, donc Tim de son vrai nom, a décidé de s'enlever la vie, malheureusement. Il y avait déjà eu un documentaire sur Netflix,
ouais, ben
mais
ça.
Dans lequel lui apparaissait. Parce que c'est un documentaire qui date de 2017, où on avait...
Des images d'archives, mais...
Il y avait des images d'archives, des images de lui dans sa famille, quand il a commencé à faire de la musique aussi, puis tout ça. Puis ce qu'on voulait présenter, c'était le personnage de l'intérieur, parce qu'on en connaissait peu sur Avicii, étant donné que c'est arrivé tellement vite, cette explosion de carrière-là. Là, vous comprendrez que ce documentaire-là, on est encore dans les images d'archives, mais beaucoup des images de tournée. Puis on en a vraiment de toutes sortes. C'est principalement son gérant de l'époque, Ash, qui est interviewé dans le documentaire. Il y a d'autres personnes aussi qui interviennent. David Guetta, entre autres, intervient. Wyclef Jean aussi. Mais il faut absolument que vous écoutiez ce documentaire-là, même si vous n'êtes pas fan du style musical. Parce que ce que moi, j'ai appris dans ce documentaire-là, c'est que ultimement, ce que ce gars-là voulait faire, même s'il était dans l'EDM, donc dans la musique électronique, il voulait faire de la musique live. C'était son plus grand souhait. C'était qu'un jour, il y ait de vrais instruments sur scène en train de jouer ses compositions. Lui, il était à l'aise de les composer à partir d'un ordinateur, mais il aurait aimé avoir un orchestre symphonique.
Pour être capable de jouer.
Pour être capable de jouer ses compositions.
Mais lui, il jouait-tu de la guitare?
Lui, il jouait de la guitare, il jouait du piano, mais jamais à l'aise de le faire sur scène.
Ah, okay.
Il se trouvait pas assez bon pour le faire sur scène. Il mentionne un peu dans le documentaire. Puis là, je me tourne vers Tom parce que je sais que tu l'as écouté.
Ah, aussi. C'est délicieux.
Mais il en parle du fait qu'il aimerait, à un moment donné, être capable de s'accompagner au piano. Mais en même temps, il est dans une industrie où est-ce que tout le monde il dit oh, « ça se fait pas, ça ». Le DJ il est en arrière des platines, puis il pousse ses tunes.
Comme ça que ça s'est toujours fait.
C'est comme ça que ça s'est toujours fait. Et plusieurs extraits que vous connaissez, entre autres de l'album True. Et c'est pour ça que cet album-là s'appelle True, parce qu'il voulait faire quelque chose de vrai avec sa musique. Il voulait faire quelque chose d'intemporel, mais ce qu'on lui commandait, c'était des hits par-dessus des hits. Parce que là, il y avait ce succès-là, puis tout le monde lui disait « si tu veux pas que ça te file sous les pieds, c'est maintenant là ». Il faut que tu en profites. Puis de ces chansons-là, ben, tu as quelques extraits des chansons qui sont devenues hyper populaires. Levels, tout le monde connaît ça, tu sais.
Sometimes I get a good feeling. Yeah. C'est ça. Ça a aussi été la tune Good Feeling, mais après. Au départ, c'était Levels.
Ouais, c'est ça.
C'est l'original, ça.
Ouais.
Ça, c'est Florida.
Ça, c'est une version radio, au fond, ouais. Edith, qui a été retravaillée après.
Ça m'a toujours fasciné, moi, cet univers-là. Comment un DJ crée ses tunes, tu comprends-tu? Parce que là, toutes les tissons, là...
C'est
un art, là, quand même. Moi, je mettrais du...
C'est comme un
mais juste un petit peu.
Ouais. C'est comme un architecte crée un building.
Ah oui.
C'est le même que le goût de le comparer.
C'est étage par étage aussi. Puis tu sais, une des forces de Avicii que moi, j'ai remarqué dans le documentaire, c'est à quel point quand il trouvait un thème, donc l'air que les gens chantaient, parce que tu sais, il était dans les festivals, puis les gens chantaient ces thèmes, parce que quand cette tune-là part, la foule de 80 000 personnes chante « Tanap! »
Oui.
Ta-na-na-na.
On chante quand même.
Paroles, ouais. Mais les gens chantaient sa musique.
Le son, oui.
Quand il trouvait un thème, il réussissait à trouver plusieurs sons pour le superposer. Il a écrit un jour, mais mon rêve serait d'être complètement à l'aise et complètement satisfait de ce que j'ai déjà fait, de ne pas vraiment aspirer à faire un milliard d'autres choses. Je voudrais juste être libre de toutes les idées d'une vie. Et ça a été un peu ça, puis c'est le constat qu'on fait en écoutant le documentaire aussi, c'est qu'il y a eu cette pression-là incroyable qui est arrivée excessivement rapidement, puis qui fait en sorte que c'est posthume qu'on a finalement fait un concert avec sa musique jouée 100% live. Il a participé à un festival à Miami où cette chanson-là, Hey Brother, a été présentée. Festival de musique ultra, OK? Plus gros festival EDM sur la planète, ça se passe à Miami. Il amène des musiciens sur scène avec lui. Il amène les différents artistes qui ont participé à l'enregistrement de l'album, dont ce chanteur-là. C'est un
Dan
flop.
Dan Teminsky, hein?
Oui, c'est un flop monumental. Tout le monde, le lendemain, dit « Avicii est mort, c'est terminé, c'est fini, ça fonctionnera plus. » Et là, il y a Levels qui est le gros hit planétaire à ce moment-là, propose cet album-là. Finalement, c'est son manager qui a décidé de déposer l'album gratuitement sur SoundCloud, de rapatrier tous les mauvais commentaires. Puis lui, il avait fait énormément de push dans les radios. Et là, les chansons commençaient à rentrer puis à spinner dans les radios et en disant « Regardez comment eux trouvent ça mauvais. » Puis finalement, c'est le public qui a fini par réécrire au Rolling Stone Magazine en disant « Vous savez pas de quoi vous parlez, là. Ouais. C'est extraordinaire ce que ce gars-là vient de faire. » Et là, True est devenu un énorme succès. Mmh. Ça a permis à un DJ EDM de voir ses chansons jouer à la radio, ce qui est plutôt rare, à part d'être spécialisé dans ce style de musique-là.
Puis on a perdu un humain beaucoup trop tôt aussi. Tu vois sa descente aux enfers, puis tu as des archives, des vidéos de lui que ses parents ont pris. Il avait 4-5 ans en Suède, tu sais, puis déjà là. Puis tu avais Chris Martin de Coldplay. Il apparaît dans le documentaire, puis il dit, là, je paraphrase, mais il dit, « Moi, il me faisait un peu chier de la bonne manière parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un sens de la mélodie. C'était inégalé. » Ça vient quand même de Chris Martin.
Puis tu dis, ça a commencé à jouer dans les radios. Puis Weeknd a participé à ça. Je ne sais pas en quelle année, 2013, 2014. « Wake Me Up », quel grand hit de Avicii. « Feel my way. »